Les rencontres d'Edmond Morel. Anne Goscinny, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'un récit que vous publiez chez Nil dans la collection Les Affranchis, qui est une collection de lettres adressées à qui on a choisi d'écrire. Votre livre s'intitule « Le bruit des clés » et c'est une lettre que vous avez naturellement adressée à René Goscinny, votre papa. Est-ce que vous avez le sentiment, comme vous le dites plusieurs fois, que le fait de lui écrire vous le restitue ?
Me le restitue, je ne peux pas dire ça aussi facilement. En revanche, cette expérience étrange de m'adresser à lui pendant un peu plus de 80 pages m'a rapprochée de son souvenir. J'ai appelé sa mémoire, elle est venue, sans que ce soit une expérience mystique ou de table qui tourne. Hein. Mais ça a été une intimité retrouvée dans un laps de temps assez court. Et j'ai fait ça comme une urgence. D'ailleurs, quand on lit le livre, on voit qu'il y a des phrases qui sont courtes, parfois des phrases nominales. J'étais dans une espèce d'urgence. Il fallait que je lui raconte tout ce qu'il n'avait pas vécu, tout ce qu'il avait raté en mourant si tôt. Il fallait que je lui parle de ma mère, il fallait que je lui parle de mes enfants, il fallait que je lui parle des livres que j'avais publiés, il fallait que je lui parle de ce que j'étais devenue physiquement. Il fallait presque que si on se croisait dans une foule, il me reconnaisse après ce texte.
Ce qui est très émouvant dans ce récit, comme dans le roman que vous aviez écrit et déjà consacré à ce deuil et à ce chemin de deuil, c'est le fait que votre père est un homme tellement connu, avec une notoriété telle, qu'on a l'impression que cette notoriété vous enlève la part d'intimité qui est nécessaire au deuil.
La notoriété de mon père, c'est vrai... Le suit jusque dans la mort et le suit bien après sa mort. Mais on parle là de la notoriété de René Goscinny, du créateur d'Astérix. Avec ce livre, c'est de mon père dont il s'agit. Donc je crois que pour s'en sortir, pour pas devenir déséquilibré en tout cas, il faut réussir à faire la part des choses entre René Goscinny et mon père.
Mais d'une certaine manière, en écrivant ce livre et en le publiant, vous donnez à votre deuil une forme de... Vous donnez votre deuil aussi à un public, vous donnez le portrait de votre père à nouveau au public.
Oui, je donne un portrait intime de mon père en parlant en particulier de ses origines, de cette blessure intime qui est la sienne, qui était la sienne et que peu de gens connaissent. Il ne s'agissait pas dans cette collection-là d'écrire la énième biographie de René Goscinny, de dire en quelle année il était né, de dire en quelle année il a créé Astérix, et de parler de ses personnages et de son œuvre. Il s'agissait de lui dire... à quel point la vie sans lui a été une survie.
Alors, la notion de survie, elle émane aussi de cette recherche que vous faites des parents, des oncles, de la famille de René Goscinny, dont on sait qu'elle a été victime des camps de concentration. Et vous racontez cet épisode où un notaire, un huissier de justice, fait le bilan des biens dont la famille a été spoliée.
Oui, en fait, j'ai été contactée par la commission de conciliation, de spoliation des biens juifs, il y a quelques années, parce qu'un de mes grands-oncles avait fait la demande. Et j'ai pu, à la faveur de cette démarche, avoir accès aux documents de la préfecture de police de l'époque, au terme duquel on voit tout ce qui a été confisqué à ma famille. Je viens d'une famille d'imprimeurs, et donc leur ont été confisqués... tout le matériel d'imprimerie avant bien sûr la déportation. Ils sont partis pour la plupart dans le premier convoi victime d'une rafle le 12 décembre 41 et puis certains sont partis dans le convoi numéro 35 enfin ils sont tous partis pratiquement aucun des revenus. Et cette part très intime de l'histoire de mon père, je voulais être la première à l'évoquer parce qu'elle m'appartient. Elle nous appartient, elle appartient à mes enfants. Et je ne voulais pas la retrouver sous la plume d'un biographe.
Ce qui est très, très bouleversant, c'est que vous en évoquez la trace, notamment en citant l'inventaire de ce qui a été enlevé, de ce qui a été spolié, confisqué. Et c'est un inventaire qui semble en même temps dérisoire et en même temps devient presque une métaphore de cette déchirure.
Oui, c'est un inventaire presque, pas à l'après-verre, mais presque absurde. Quand on sait le massacre qui a été... Mais avec cet inventaire que j'ai voulu qu'il soit inscrit dans un caractère spécial, j'ai voulu montrer surtout d'où il venait, parce que c'est important pour le comprendre, d'où lui venait, d'où venait sa mère. Je crois que dans ce texte intime, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette intimité-là.
Vous parlez de caractères, effectivement, ils sont en caractère machine à écrire, je dirais.
Oui.
Et il y a d'autres caractères que vous utilisez aussi, ce sont les italiques, pour évoquer en quelque sorte à la troisième personne des événements qui n'appartiennent pas à la lettre proprement dite.
Oui, pour évoquer les souvenirs. Je ne voulais pas que ce texte soit d'une chronologie linéaire. C'est-à-dire, je ne voulais pas partir du 5 novembre 1977 et arriver en septembre 2011. Parce que j'ai fini de l'écrire en 2011. Je voulais que le texte soit émaillé de souvenirs qui nous replongent dans un passé. Et pour ça, je voulais que les caractères soient distincts des autres. Mais c'est des souvenirs, comme vous avez pu voir, finalement assez pauvres et assez anecdotiques. D'abord, il y en a peu. Et ils sont très anecdotiques. Enfin, on n'est ni dans la littérature... Enfin, c'est très intime. C'est une petite fille qui se souvient. Donc, de quoi se souvient une petite fille ?
Oui, elle se souvient de choses tout à fait émouvantes et attendrissantes dans la relation que la petite fille a eue avec son père, notamment quand vous osez aller l'interrompre dans son travail. On découvre que c'est quelque chose qui ne se faisait pas lorsque René Goscinny lorsque votre papa était à la machine à écrire, on ne venait pas le déranger. Mais vous, à certains moments, vous osiez, il y avait une sorte de complicité comme ça.
Oui, quand j'étais très motivée, et là en l'occurrence, je sais à quoi vous faites allusion, j'étais très motivée, j'avais vu une robe que je trouvais magnifique dans une vitrine, qui en fait était très laide, qui avait des dentelles et des fonfreluches partout. Et effectivement, ma mère n'avait pas voulu me l'acheter tellement la robe était de mauvais goût. Et donc, je m'étais dit, ma dernière chance, c'est lui. Et donc, j'avais bravé tous les interdits liés au bureau de mon père. Et j'avais grimpé sur ses genoux et je lui avais dit, écoute, je crois que j'ai vu la plus belle robe du monde. Il faut absolument que tu fasses quelque chose.
Il vous avait fait le même plaisir à l'occasion d'une vitrine devant laquelle vous passiez où il y avait des montres. Il vous demande quelle est la plus jolie. Et on sait que quelques heures plus tard, il ira la chercher.
Oui, oui, j'avais effectivement vu une petite montre avec un bracelet en faux daim et des aiguilles. Des traits qui figuraient les chiffres. Et je lui avais dit, écoute. Il m'avait dit laquelle te plaît, je lui avais dit celle-ci, puis on était rentré à la maison, puis il était ressorti discrètement, et le soir sous mon oreiller, j'avais la montre.
Alors on se rendra compte en lisant ce livre, on sait que quand une des fonctions de la littérature, c'est aussi de permettre au lecteur de ne plus se sentir seul lorsqu'il vit des situations dont il trouve la formulation dans un livre. Dans votre cas, cela sera le cas pour beaucoup, je pense, de petites filles ou de petits garçons qui ont perdu leurs parents. Vous avez cette formule qui est les marqueurs du temps, qui sont des points pour lesquels vous vous rendez compte que le temps s'est arrêté en quelque sorte.
Oui, je dis, je crois me souvenir, que les marqueurs de temps sont désormais interdits. Par exemple, je ne peux pas dire hier papa riait, demain papa m'autorisera, après-demain il interdira. Je veux dire, effectivement, les marqueurs de temps sont des marqueurs de deuil. Ça, c'est interdit. Après, on peut trouver des subterfuges, on peut trouver des... Il y a le mécanisme du transfert qui se met en place. On s'arrange avec la réalité, nous, les enfants endeuillés. Mais Il y a des choses quand même qui sont très violentes. Et ce que vous dites là de ce livre qui peut résonner pour d'autres, c'est très important pour moi parce que j'ai voulu aller au-delà de l'histoire intime. C'est une histoire très intime. Mes souvenirs sont des souvenirs très intimes. Et j'ai voulu, au-delà des souvenirs intimes, dire aux adultes qui côtoient des enfants à qui ce drame arrive, leur dire, c'est pas parce que vous avez dit à l'enfant, voilà, il est mort, et la mort, c'est définitif, et quand on dit mort, ça veut dire plus jamais, que l'enfant, affectivement, a compris le message. Et c'est pas parce qu'on a mis des mots précis, cliniques et froids sur ce drame que tout est réglé, que tout est résolu.
Oui, vous évoquez cette phrase terrible que vous avez prononcée quand vous avez appris que votre papa était mort. Vous avez demandé, il est mort pour combien de temps, en quelque sorte ?
Oui, parce que aujourd'hui, avoir 9 ans aujourd'hui, c'est pas exactement comme avoir 9 ans en 77. Moi, j'ai une fille là, qui a 9 ans, Salomé a 9 ans, et Salomé est beaucoup plus mûre que moi j'étais en 77. Un enfant en 2012 a accès à Internet, a accès à tout un tas de trucs, à tout un tas de technologies. On les emmène beaucoup plus au cinéma, au théâtre, ils voyagent plus, etc. Ce sont des enfants plus mûrs qui regardent les actualités, les infos. 9 ans en 77, moi j'avais la mort, je savais pas. Enfin, c'était pas quelque chose d'inscrit. Le caractère définitif de la mort n'était pas nécessairement clair.
Aujourd'hui, même si la tragédie pour un enfant qui perd ses parents est identique, on a peut-être davantage de mots, une formulation plus psychologique des choses. Quand on lit comment le médecin a annoncé à votre maman que votre papa était décédé, c'est aberrant.
Oui, il lui a dit, elle est rentrée dans cette salle d'examen et elle lui a dit, madame, sortez, vous voyez bien qu'on lui fait sa toilette. Mais ce que vous dites est très juste. Je crois qu'aujourd'hui, on est mieux armé. Il y a plus de psychologues, on en parle davantage. Quand ça arrive à un enfant, peut-être on l'emmène plus facilement voir quelqu'un dont c'est le métier de s'occuper de ça. À mon époque, on voyait que j'allais bien, que j'étais en forme, qu'à l'école ça marchait bien, que j'avais des copains, que j'étais sociable. Ma mère s'est pas méfiée et a pas vu probablement la déchirure énorme qui avait derrière ça. J'étais une adolescente un peu atypique, un peu à part. J'écoutais que du Brassens, j'écoutais que du Brel, j'écoutais Barbara, Anne Sylvestre, Jean Ferrat, Léo Ferré. J'écoutais pas de musique anglo-saxonne. Je suis jamais allée dans une boîte de nuit. J'écoutais beaucoup d'opéra. J'étais dingue d'opéra. J'ai eu quand même une adolescence qui laissait voir qu'il y avait quand même quelque chose de pas complètement réglé.
Vous aviez besoin, d'après les titres, les noms des chanteurs que vous citiez, peut-être et l'opéra, d'une sorte d'accompagnement musical un peu grave des choses.
J'avais besoin, dans mon intimité, dans l'intimité de ma chambre, d'une voix masculine que j'ai trouvée d'abord avec Georges Brassens. Qui m'a accompagnée de l'âge de 10 ans à l'âge de 44 ans, qui continue à m'accompagner tous les jours. Ça ne se passe pas un jour sans que j'écoute une chanson ou deux de Georges Brassens, parce que j'ai trouvé des correspondances entre l'œuvre de Brassens et l'œuvre de mon père. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on peut écouter une chanson de Brassens, je prends n'importe laquelle au hasard, La princesse et le croque-note, on entend une histoire. On réécoute cette chanson à 15 ans, on en entend une autre. À 25 ans, une autre, et aujourd'hui, probablement, j'en entendrai une autre. Quand on lit l'œuvre de mon père, on l'appréhende différemment. Si on la découvre à 8 ans, après, on la relit à 15 ans. À chaque étape, on retrouve, on comprend des calembours qu'on n'avait pas compris. Chaque étape est différente. Et j'ai trouvé cette résonance-là dans Brassens, et Brassens avait une voix qui me parler, qui me touchait, et surtout Brassens, je pouvais arrêter sa voix, la remettre, l'arrêter, l'avancer, la reculer. Je pouvais jouer avec la voix de Brassens.
Ce que vous pouviez faire aussi avec les cassettes VHS dans lesquelles figurent des interviews de votre papa, c'est quelque chose dont je n'ai pas saisi vraiment si c'était quelque chose qui vous apportait une forme de consolation ou finalement accentuait la détresse de l'absence.
En réalité, je me suis dit au début, ça va être facile parce que je vais mettre ces cassettes VHS dans le magnétoscope. Donc je vais l'entendre et je vais le voir. Finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais prendre son flacon de parfum, moustache, et je vais asperger la télé, comme ça j'aurai le son, l'image, l'odeur. Qu'est-ce qui va me manquer ? Eh bien là, on fait l'expérience du deuil, par exemple. Ce qui me manque, c'est l'essentiel, c'est lui. Et c'est à partir de ce constat-là, de ce manque-là, que je construis, que je, psychiquement, que se mettent en place des espèces de défense, comme des herses, et le système du transfert qui vient se mettre en place.
Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez du fait que votre père a aussi été le survivant de sa famille qui a été décimée dans les camps, est-ce que vous n'essayez pas aussi de comprendre et d'admettre que vous êtes aussi une survivante d'une certaine manière ?
Ah, nous, les enfants de cette génération-là, nous sommes des survivants, bien sûr, de fait. Si mon père n'avait pas été en Argentine, il serait mort et moi je ne serais pas là. On est des survivants et ça nous donne, et j'en ai beaucoup parlé avec Colombe Schneck qui a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle La réparation. Parce qu'en plus, Colombe parle de sa fille qui s'appelle Salomé parce que la cousine germaine de sa mère s'appelait Salomé et est morte déportée. Et nos Salomés, celle de Colombe et la mienne, ont un jour d'écart. Donc ça, on a créé un lien et effectivement, ce lien passe par ce mot, survivante.
En posant ma question, je pensais au fait que vous êtes une survivante de votre papa qui est finalement mort à un âge où il aurait dû lui aussi survivre.
Survivante à deux niveaux. Survivante de l'histoire, nécessairement, et... je lui ai survécu parce que ainsi va la vie et il est normal que les enfants survivent à leurs parents. Survécu. Ouais. J'ai par moments difficilement vécu.
Notamment lorsque vous allez rendre visite, vous avez 18 ans, je pense, au cardiologue, donc tout le monde sait qu'il a poussé un peu trop loin peut-être l'exercice auquel il soumettait votre papa, mais ce n'est pas une erreur médicale, mais pour vous, vous deviez le voir, vous deviez aller lui rendre visite, et c'était une visite très violente.
Je pense au contraire qu'on est en pleine erreur médicale, parce que mon père avait une angine de poitrine, et l'examen du test de l'effort aurait dû être annulé. Or, il y a une secrétaire qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas annulé cet examen du test de l'effort. Mon père n'était pas médecin, ne savait pas qu'avec une angine de poitrine, on ne faisait pas de test de l'effort. Donc, il est allé à cet examen, il a décrit l'infarctus, et le médecin lui a intimé l'ordre de pédaler 15 secondes de plus, parce qu'il n'avait plus de place la semaine d'après. Si mon père s'était arrêté à temps... Si tout simplement il n'y était pas allé, peut-être ne serait-il pas mort. Donc oui, on peut parler d'erreur médicale.
Et lorsque vous êtes allé à 18 ans rendre visite à ce médecin, cette violence que vous aviez, est-ce qu'elle vous a d'une certaine manière soulagé ? C'était un acte à accomplir contre quelqu'un d'autre ?
C'était 9 ans plus tard, c'était le jour de mes 18 ans, et ce serait l'acte fondateur qui me permettrait d'être majeur. Je ne serais majeur... qu'après avoir vu en vrai le vélo et qu'après avoir parlé à ce médecin et après lui avoir fait peur. Ça me permettait aussi de dire à ma mère, voilà, j'y suis allée, je l'ai vu, je l'ai fait. Ça ne va pas faire revenir papa, mais au moins je l'ai fait.
Alors, Anne Goscinny, pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous essayiez de nous décrire quel est l'impact qu'a l'écriture sur votre démarche. Est-ce que vous êtes écrivain ou est-ce que vous êtes dans un travail de deuil ?
Alors, moi, j'ai une façon d'aborder l'écriture qui n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire que je trouve que pour se soigner... Il y a des gens dont c'est le métier, qui sont des psychiatres, psychologues, psychanalystes. Il y a des méthodes qui permettent de se déstresser. Je ne sais pas, je ne les pratique pas. Hein, le yoga, le bain chaud, le thé vert, je dis n'importe quoi. Pour moi, l'écriture est un art. Et je ne vais pas avoir l'inélégance et l'impudeur de publier mes états d'âme. Donc ce livre est avant tout, non pas une œuvre d'art, ce serait très prétentieux de dire ça, ce livre est avant tout de la littérature. Son contenu est ce qu'il est, mais la fonction, encore une fois, thérapeutique de l'écriture, peut-être il y a des ateliers d'écriture qui permettent aux gens d'aller mieux, etc. Moi, ce n'est pas ma démarche. Je revendique, je ne sais pas si je le mérite, mais je revendique le statut d'écrivain.
Alors, je pense que vous le méritez largement, et par ce livre, et par les livres qui ont précédé, et j'en suis sûr, par les livres qui vont suivre, parce qu'un écrivain n'arrête pas d'écrire, c'est aussi une des définitions de l'écrivain. En tout cas, ce livre permet aussi, et c'est une des fonctions de la littérature, comme on en parlait tout à l'heure, de permettre à celui qui le lit d'entrer en empathie avec une situation, avec un vécu qu'il soit... Il aurait pu être imaginaire, vous auriez pu prendre un pseudonyme. C'était l'histoire d'un deuil, et l'histoire d'un deuil transfiguré par la littérature.
Oui. Et puis, ce que vous dites est très, très chouette pour moi. C'est que ma carrière commence tout juste. J'en suis qu'à mon 5e livre. J'espère qu'elle sera longue. Et peut-être qu'elle prendra d'autres formes. Peut-être le théâtre est quelque chose qui m'attire beaucoup. Il faudrait qu'un jour, j'arrive à me lancer. Je voudrais bien voir ce que deviennent mes mots dans la bouche d'un comédien. Enfin, voilà, j'ai des projets, beaucoup de projets. Mais pour l'instant, comme mon fils est rentré en 6e, mon projet, c'est de comprendre les fractions.
C'est peut-être beaucoup plus compliqué.
Ouais, c'est très compliqué, je peux vous dire, c'est très compliqué.
Voilà, mais écoutez, au moins votre fils aura de l'empathie par rapport à la difficulté d'affronter l'arithmétique et les fractions. Anne Goscinny, je vous remercie pour cet entretien et pour l'avoir terminé sur ce sourire enfantin. Je rappelle le titre de ce livre, Le bruit des clés, c'est paru chez Nil dans cette collection Les Affranchis, une collection dans laquelle les textes sont écrits sous forme de lettres. Merci Anne Goscinny.
Merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.